Dan, la parole est à toi.
Ok, amis de la communique, bonjour, bonjour Thierry Ross.
Bonjour Dan Leclerc, bonjour
voilà, à tous. Nous voilà en direct pour notre Zoom spécial communique, spécial confinement communauté israélite de Strasbourg, Bas-Rhin, avec des invités, mais comme toujours, d'exception. Et le cas étant exceptionnel, nous accueillons aujourd'hui le président Patrick de Radio Judaïka, Patrick Cohen, bonjour. Je ne sais pas si tu m'entends. Nous avons également l'honneur d'avoir le grand rabbin de France, M. Raïm Corsia. Bonjour.
Bonjour.
Avec nous. Et Olivier Samuel, le coordinateur
bonjour
de la cellule de crise.
Bonjour, c'est Patrick. Je crois qu'on t'entend maintenant. Ça devrait être bon, Patrick Cohen.
Oui, je vous entends
parfait.
En tous les cas.
Alors, on va peut-être démarrer. Thierry, tu m'entends ? Tu
oui.
Nous entends ? Bon, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir le grand rabbin de France avec nous, Raïm Corsia. Peut-être un point de situation au niveau rabbinique et consistorial à Paris, monsieur le grand rabbin de France.
On a la charge de l'ensemble de la France. Pour Paris, elle ramène Paris. Ce qui est certain, c'est que après avoir essayé d'autoriser les synagogues dans des conditions de confinement, de respect de normes sanitaires très élevées, et en allant au-delà de ce que le gouvernement demandait, parce que le gouvernement aujourd'hui, autorise encore les lieux de culte à être ouverts avec une limite maximale de 20. Nous, on avait proposé 15. In fine, on a décidé avec le président Mergui de fermer les synagogues et que celles qui restent ouvertes soient vraiment de manière très, très, par dérogation et de manière très rare. Parce que je crois que si on impose des mesures de confinement, il faut absolument qu'on les respecte. C'est de la qualité de notre confinement qu'on pourra dépasser cette crise sanitaire. Et on voit bien la colère des autorités de voir des gens courir, marcher, vivre pour certains un peu comme d'habitude. Il y a nécessité d'avoir un véritable confinement, d'où par exemple Shabbat, les consignes très strictes ont été données, de ne pas jouer à faire de grandes tables de Shabbat pour se retrouver à 3 ou 4 familles. Je sais que c'est plus sympathique, mais c'est pas la règle du confinement. Il en va de même, par exemple, c'est le message que j'ai lancé hier, suite à une réunion, parce que nous avons une réunion en Paris nationale, une réunion de crise où toutes les grandes instances se rassemblent pendant une heure pour faire un peu le point. On a vu hier des comportements dans les magasins cachers qui n'étaient pas cohérents avec les mesures de confinement et de distance sociale. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas avoir les gens qui ne font pas attention comment ils prennent les objets, comment ils règlent les choses avec leur carte bleue. Il y a des façons de se comporter qui ne peuvent pas être les mêmes que d'habitude. Donc, on a rappelé cela. Et globalement, la vie juive se poursuit avec une sorte de regain étonnant puisque on a beaucoup de cours avec Zoom, comme cet échange que nous avons maintenant. On a beaucoup de communautés qui mettent en place une nouvelle façon, je dirais, de faire communauté. Et je trouve que c'est assez émouvant, cette force du peuple juif, en particulier dans un Shabbat qui s'appelle Vayakel et Moïse rassembla. Donc le rassemblement se fait différemment que physiquement, il se fait par la capacité, par exemple comme à Vincennes, ils ont décrété de prier demain matin tous en même temps à 9h30. Donc je trouve très bien qu'on puisse faire une autre, construire d'autres façons de nous rassembler.
Alors justement, le fait d'être rassemblé à distance ne pose pas de problème alariquement, que ce soit pour les offices, pour les minyanes, pour les fêtes de manière générale.
Ça pose des problèmes anarchiques, c'est une chose. J'ai pas dit qu'il faut, puisqu'on peut le faire maintenant, on pourra le faire après la crise du coronavirus.
Bien sûr, bien sûr.
Non, je dis simplement.
On prend bonne note, monsieur le grand rabbin.
Non, mais il faut le dire, parce que c'est.
Oui, je crois que c'est important qu'on le sache.
C'est pas parce qu'on autorise, pas parce qu'on vit des choses, parce que nous sommes contraints et forcés de vivre, mais qu'il faut le faire. Et c'est peut-être la façon juste de faire les choses. C'est ne jamais faire les choses de manière contrainte, mais d'y trouver du sens. Je trouve que l'impératif, c'est le confinement. Et donc, il faut trouver d'autres façons de vivre notre système communautaire.
En dehors de la vie juive, M. Grandmain, en dehors de la vie juive et de la vie sociale et du lien social, je ne sais pas s'il est encore là, M. Grandmain de France.
Oui, je suis là. Pourquoi ?
Ouais. Je ne vous voyais plus sur mon écran. En dehors de la vie juive, la vie sociale et du lien qui nous est tellement cher et d'ailleurs qui est en retour peut-être une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de contamination, c'est cette vie sociale très rapprochée que nous avons. Est-ce qu'au niveau de la religion, il y a déjà eu des cas dans l'histoire? Je sais qu'il y a eu une épidémie de peste où on avait ordonné la fermeture des lieux de prière, je crois que c'était au 15e siècle. Mais est-ce que on est en règle vis-à-vis du bon Dieu, on va dire, au niveau de tout ce qui a été entrepris? Je pense que la règle suprême de sauver la vie prend le dessus.
Vous me posez une question à laquelle vous apportez une réponse, à laquelle j'avais déjà répondu, mais peut-être pas assez clairement, donc je veux le redire. L'impératif de vie s'impose à tout le monde. Et je vais vous dire, ça va tellement loin que c'est une évidence telle que moi-même, je ne me suis pas amusé à me trouver un petit office pour pouvoir y aller demain matin. Je resterai comme tout le monde. Je dois vivre, je me dois de vivre la même chose que ce que tous nos concitoyens, nos fidèles vivent. Donc, c'est très clair. Quant à l'expérience, je crois qu'une expérience de ce niveau, on n'en a pas. Mais permettez-moi de vous rappeler un passage du Talmud que j'aime beaucoup. Le Talmud raconte qu'il y a eu un moment une épidémie et autour de la maison de Ravuna, il n'y avait pas de mort. Alors des gens ont dit, c'est formidable, Ravuna est un saint homme, il prie pour les gens et donc les gens ne meurent pas. Et Ravuna dit, pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est parce qu'à côté de chez moi, il y a quelqu'un qui prête sa pelle pour enterrer les morts. Et donc puisqu'on enterre les morts, il y a plus la diffusion de l'épidémie, la contagion. Et donc, le Talmud, il y a 2000 ans, nous apprend une chose simple, c'est que en cas d'épidémie, il faut absolument s'en tenir aux protections médicales, aux protections imposées par le gouvernement. Donc, c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit.
Dan Leclerc.
Je vous entends. Alors, moi, j'ai une petite question. J'ai vu apparaître sur un canal d'information réseau social une autorisation exceptionnelle d'autorisation d'utiliser le portable pour ce Shabbat par le grand rabbin d'Israël.
Non, calmez-vous.
Dan, tu prends tes désirs pour des réalités, je crois.
C'est Israël. Et il y a la même où on est le droit de faire du homard. Oui, c'est
le homard. J'ai pas entendu.
Le homard. Monsieur le rabbin est en train de nous dire qu'on a le droit de découper le homard demain.
Oui, faut se calmer. Ce qui est certain, c'est que en Israël, compte tenu de la situation où ils ont un suivi très précis des personnes atteintes du coronavirus, il y a besoin de diffuser des informations. C'est pas notre cas en France. En France, la règle est simple, confinement. Ça veut dire rester chez soi. Mais alors, si je peux me permettre un conseil, je dis pas qu'il faut pas voir les réseaux sociaux, mais je conseille, moi, aux gens qui veulent bien me faire l'honneur de me le demander, de ne pas regarder les télés d'information, les chaînes d'information en continu. C'est anxiogène comme c'est pas permis.
On est d'accord.
Tout ce qui est sur les réseaux sociaux, c'est mignon, mais ça crée un sentiment d'urgence qui est stressant à la longue. Moi, je vous dis, la lecture, c'est formidable, formidabilissime. Pouvoir parler un peu avec ses enfants, son épouse, c'est pas mal non plus. Voilà, si on a la chance d'être confiné avec eux, alors je sais bien qu'il y a des gens qui sont confinés tout seuls, c'est moins sympa, mais pour lire, c'est aussi faisable. Et j'ai le sentiment que ça nous oblige à retrouver une façon d'exister par nous-mêmes, pas uniquement d'exister, parce que nous sommes un animal social, au sens que, oui, on aime bien avoir, savoir ce qui se passe, avoir le sentiment d'être dans le monde parce qu'on voit les télés en continu. Mais je ne crois pas. Je pense que, justement, ce Shabbat est une occasion extraordinaire de vivre un véritable Shabbat, au sens que vivre quelque chose par ce qu'on fait nous-mêmes et pas uniquement nourri par ce que les autres nous apportent.
Monsieur Grabin, je rebondis sur ce qu'on était en train de dire, à savoir le fait de Pessah arrive très rapidement. Il semblerait qu'on ne soit pas tous libérés de cette contrainte qui nous est imposée. Comment est-ce que vous voyez l'organisation de ces fêtes de Pessah?
C'est-à-dire quelle contrainte?
Le confinement.
Pour l'instant, c'est vrai que pour l'instant, vous avez raison. Pour l'instant, on a une durée qui nous amène juste avant Pessah. Elle sera probablement rallongée, mais j'en sais rien. Je vous dis, mais bon, probablement. Mais peu importe, il n'y a aucun souci d'approvisionnement. Il faut être très clair là-dessus. Donc, il n'y a aucune panique à avoir sur la nourriture. J'ai entendu tellement de choses. J'ai appelé les producteurs de viande, il n'y a aucun problème sur la viande. Et sur le reste, l'approvisionnement suit tout comme en France, il n'y a aucun problème d'approvisionnement. Alors que les gens se soient rués sur les rayons cachers, comme sur tous les autres rayons d'ailleurs, dès le début du confinement, c'est une chose. Mais ces gens qui ont déjà fait leur provision pour Pessah ne les feront pas les 15 derniers jours. D'habitude, les gens... Donc, il n'y a pas... La véritable question, si je peux me permettre, c'est plus que l'approvisionnement, hein, c'est la question de la solitude de ceux qui sont confinés tout seuls. Autant, je vois bien la difficulté. Il faudra trouver comment les approvisionner, ça c'est évident. Mais comment faire accepter que cette fête, qui est une fête éminemment familiale, puisse se faire dans des conditions optimales de sécurité sanitaire. Écoutez, voyons les, comme le dit le psaume 68, sauve bénédiction sois-tu Seigneur, yom yom, jour après jour.
Jour après jour. Après jour, je crois que c'est effectivement le ce qu'on a pas d'autre choix de toute façon que de le gérer ainsi.
Mais c'est vous voyez, ça c'est formidable votre phrase. On n'a pas d'autre choix. Et donc c'est une règle de la vie. Quand on n'a pas d'autre choix, autant faire en sorte que ce soit notre choix. C'est-à-dire que oui, on est imposé dans un confinement, un enfermement, mais personne n'impose ce que je dois faire. Je ne dois pas rester collé à ma télévision. Je peux lire, je peux parler, je peux faire du vélo d'appartement. On a tous probablement un vélo d'appartement qu'on a acheté il y a à peu près 5 ou 6 ans ou 8 ans ou 10 ans en se jurant d'en faire tous les jours et qu'on n'a jamais utilisé. Sortons ce vélo.
C'est le moment d'actionner. Hein, c'est, si je comprends bien. Voilà.
Oui.
Mais c'est assez rare que notre grand rabbin de France nous préconise une activité sportive ou de manière générale les rabbins. Donc moi,
détrompez-vous. Moi, j'ai toujours engagé le prix à avoir beaucoup de sport. J'ai toujours mis des tables de ping-pong dans toutes les synagogues que j'ai fréquentées. Et j'espère qu'il en ira bientôt de même, très prochainement, dès la fin du confinement et notre libération de ce virus. Finalement, n'oublions pas que c'est Shabbat Vayakel Pekoudé, mais c'est aussi Shabbat Achodesh, qui annonce le mois de Nissan, qui est toujours le mois de la délivrance. Le Seigneur fera que ce sera encore cette année le mois de la délivrance.
Et nous sommes aujourd'hui à l'équinoxe.
Ben, c'est bien.
Dans le monde. Voilà. Certaines religions, et la nôtre, je crois, par le passé, voyaient justement ce point d'équinoxe du printemps comme le début de l'année et justement la renaissance et de la culture.
Alors, là, demain, on est le 25. Et d'ailleurs, tiens, puisque je suis avec vous, le 25 Adar, demain, Shabbat, c'est malheureusement aussi le Herzeit de Jonathan, Gabriel, Harry et Sandler, du Mira Monsonego, en hébreu. Et puisque je sais que Samuel Sandler, le père, le grand-père, le père de Jonathan et le grand-père de Harry et Gabriel ne pourra pas faire Kaddish, il faut que dans toutes les maisons, on puisse penser à eux et peut-être dire la chose la plus importante qui soit. Ils sont toujours avec nous. Et donc, ils sont toujours vivants grâce à nous. Et c'est cette idée force que je voudrais que chacun, chacune porte. Ce qu'on est, ce que nous sommes dans notre foi, personne ne peut nous le retirer. C'est pas le fait d'être séparés qui nous empêche de vivre ce que nous vivons, de nous associer à ceux auxquels on pense. Et donc, évidemment, si on peut le faire avec ceux qui ne sont plus de ce monde, évidemment qu'on peut le faire avec ceux qui sont juste un appartement, une rue, une ville de chez nous. Donc, je trouve très important pour ce Shabbat de se construire dans une sorte d'unité temporelle et après Shabbat, de reprendre vos téléphones que vous aurez laissés éteints et de rappeler toutes les personnes isolées de manière à garder ce lien. Et puisque je vois Thierry avec son pont juste derrière lui, avec ce pont entre les personnes qui me paraît très important.
Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin, en tout cas pour
ces
mots
encourageants,
rassurants et sportifs.
Et si vous me permettez un petit mot tout à fait personnel, bonne santé à votre président Maurice Dahan, qu'on aime beaucoup, et aux rabbins, et à toutes celles et à tous ceux qui sont frappés et qui luttent, parce que leur lutte, c'est notre lutte aussi.
Alors en parlant de lutte, merci monsieur le grand rabbin.
Ça sera diffusé.
Ça sera évidemment diffusé. Monsieur le rabbin, Chaim Kotzer, grand rabbin de France. Vous parliez de lutte. Vous savez, vous connaissez tous l'actualité concernant les hôpitaux mulhousiens et aurinois, particulièrement proches de chez nous. Patrick Cohen, président de Radio Judaïka, est avec nous. Rebonjour Patrick.
Bonjour Dan.
Ah, il fait du sport aussi, je vois.
Il a le panier de basket.
C'est le panier de basket de mon fils.
Ouais. Il ne sait pas
mais
encore
j'ai,
comment
j'ai pas de vélo d'appartement, moi. Mais je suis en train de me dire, je vais peut-être en commander un sur Amazon, puisqu'il livre encore. Donc.
Mais oui, il faut. Bon, allez, Shabbat Shalom à tous, je vous laisse.
Shabbat Shalom, merci beaucoup.
Merci, M. Graham. Patrick Cohen, tu t'es mis à un autre type de sport pas plus tard qu'hier en prosant de ta belle plume et de ton beau clavier. Tu as écrit un manifeste absolument incroyable, extrêmement touchant, qui a été repris et partagé à ce jour plus de 35 000 fois, vu par plus de 6 millions de personnes, suite à un échange avec de la famille proche à toi par alliance, le docteur Kenizou et son épouse Julie, qui sont respectivement cardiologues et infirmiers à l'hôpital de Mulhouse, et dans lequel tu as brillamment et avec beaucoup de justesse écrit la situation telle que tu l'as ressentée. Ça fait une incroyable ode sur les réseaux sociaux, un coup de semonce. Certains diront qu'il ne faut pas être alarmiste, d'autres diront qu'il faut évidemment nommer les choses. Les choses existent parce qu'elles sont nommées. Comment est-ce que cette inspiration et surtout cette idée d'échanger, de coucher sur le papier le texte que l'on appellera « Moi, je suis Patrick Cohen » a vu le jour?
Tout à fait naturellement. En fait, j'étais avec mon ami de Mulhouse, qui est aussi médecin dans cet hôpital, hein, que j'ai appelé d'ailleurs dans un poste l'hôpital de l'horreur. C'était il y a deux jours de ça, le soir, et il m'a demandé de le rappeler. Il était très insistant, donc j'ai fini par le rappeler. Et là, j'ai eu réellement un témoignage fort. Il avait besoin de parler, d'échanger, de témoigner aussi. Voilà. Et donc, à la fin, à ma grande surprise, parce que je pensais simplement qu'il avait besoin d'en parler, il m'a dit cette phrase, il m'a dit « Écoute, tu connais du monde, il faut absolument que les gens sachent, fais en sorte de faire passer l'information. » Alors, la radio me paraissait pas être le meilleur outil pour ça, parce que je voulais aussi conserver son anonymat, ce qui est important quand même. Ouais, mais on fera un petit montage. Et donc le lendemain matin, je me suis levé très tôt comme tous les jours et j'ai pris ma plume parce que c'est ce que je sais faire sûrement de mieux quand je dois exprimer des choses fortes et puis poser les choses pour les dire le plus précisément possible. Voilà. Et puis après, le reste m'échappe totalement parce que tu disais, mon cher Dan, qu'on était à 30 000 partages et 6 millions de vues. Et je peux te dire qu'on est maintenant à 55 000 partages et plus de 12 millions de vues. Je reçois des messages de tous les pays du monde. Voilà. C'est absolument… Alors, c'était pas l'objectif, hein, quand il m'a dit passe l'information parce que tu sais le faire. Je dois bien t'avouer que je m'attendais absolument pas à ça. Il y a des témoignages de sympathie considérable, et d'ailleurs je suis très heureux parce que ils me reviennent pas, hein, ces témoignages, ils reviennent aux praticiens, aux médecins, aux gens qui au quotidien travaillent dans ces centres hospitaliers. Voilà, donc c'est plutôt quelque chose d'assez chouette. Et puis j'ai dit je suis Patrick Cohen au début, je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai redit à la fin. Je voulais vraiment être identifié, non pas pour moi, mais parce que j'avais énormément de crainte qu'on prenne ce poste pour un fake news, pour un appel un peu comme ça irresponsable. Et donc je voulais vraiment m'identifier de manière tout à fait ouverte. Voilà. Donc je l'ai fait comme ça. Et puis voilà, le résultat, encore une fois, m'a dépassé totalement.
Alors Patrick, ça ouvre un dialogue, une discussion, ceci, parce que ce matin, je regardais sur YouTube ce professeur, je dirais son nom aussi, professeur de médecine, de virologie, je crois d'ailleurs, de Marseille, qui lui disait que le confinement ne sert à rien, qu'il faut continuer à vivre normalement, il suffit de contaminer les gens, et que finalement, il n'y aura pas plus de morts qu'avant. Mmh. Alors, si effectivement, on parle en statistiques, et qu'on est à 1,5% de la mortalité nationale, c'est rien, mais si ça représente 3000 personnes, et si en plus, parmi ces 3000 personnes, il y a quelqu'un de votre famille, de votre environnement proche, un père, une mère, une grand-mère, ou un ami proche, bah, vous voyez les choses différemment. Donc, comme l'a dit le grand rabbin de France, aujourd'hui, on est à sauver même une seule vie, comme on dit chez nous, qui sauve une vie, sauve l'humanité. Donc, on ne peut pas se permettre de dire « Non, le confinement ne sert à rien, continuez à vous promener dans les parcs. »
Ah oui, non, mais tout à fait. Enfin, le message était celui-là, hein. C'était de dire, il y avait un double message. Le message initial, c'était de dire, on est vraiment débordé d'ores et déjà. Cet ami, en fait, me disait, j'ai l'impression, il me disait, la comparaison est pas juste, hein. Mais quand je vois les gens fonctionner aujourd'hui, enfin réagir aujourd'hui, j'ai cette image de gens qui pique-niquent à côté d'Auschwitz. C'est-à-dire que l'horreur est à la portée de là où ils sont, mais ils ne le voient pas. Et lui me disait, l'horreur est à l'hôpital, et c'est vraiment absolument dramatique ce qui se passe à l'hôpital de Mulhouse, mais c'est pas le seul hôpital. Je crois qu'à Colmar, on n'est pas très loin de vivre les mêmes choses. J'ai entendu dire hier que l'hôpital de Strasbourg était quasi saturé. Donc, et puis, on a des pronostics, entre guillemets, ou en tous les cas, des prévisions qui sont pas forcément très bonnes. Donc, on se dit que ça n'ira pas vers le mieux. Et puis la deuxième chose, et c'était le message qu'il voulait absolument que je fasse passer, c'est oui, restez confinés pour vous protéger, restez confinés pour ralentir finalement la propagation de ce virus, de façon à ce qu'on n'ait plus ces vagues incessantes de nouveaux patients qui arrivent et qu'on ne peut pas soigner, parce que c'est une réalité, on ne soigne pas les gens à l'hôpital, on les accompagne, mais il n'y a pas de traitement, il faut quand même que les gens le sachent, hein. Il n'y a pas de traitement, et le traitement antipaludique qu'on met très en avant a été testé sur très peu de patients, c'est ce qu'il me disait aussi, les résultats sont beaucoup trop neufs, ce test n'a pas été fait sur assez de patients, enfin, de toute façon on a le temps de rien dans cette situation, on essaye, on devient presque des apprentis sorciers, et donc aujourd'hui la réalité c'est que quelqu'un qui est contaminé arrivant à l'hôpital, on va l'accompagner, mais il n'y a pas de traitement. Voilà, donc lui il souhaitait que les gens restent confinés pour faciliter le travail, d'abord pour qu'ils se protègent évidemment, et pour faciliter le travail des soignants de façon à ce qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions et ne pas à un moment être à la rupture, parce que c'est ce qui risque d'arriver à un moment.
Alors Patrick Cohen de Radio Judaïka, et maintenant aussi célèbre que Patrick Cohen de France Inter et Europe 1. Non, mais ce que je veux dire par là…
Pour un temps bien plus bref.
Ouais, peut-être pas. C'est que ce message que tu as diffusé, qui malgré toi et sans jeu de mots est devenu viral, peut sauver des vies. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire sur notre radio, ce que nous faisons à la communauté, ce que d'autres font dans leur communauté ou même au niveau national, parler aux gens, c'est l'essentiel pour préserver des vies. Et on ne s'en rend pas compte, c'est ça la guerre dont parlait le président Macron. Maintenant, c'est pas la drôle de guerre comme on l'a vécu en 39-40. Mais tu faisais tout à l'heure allusion à l'image très forte que notre ami médecin, et d'ailleurs son épouse qui est infirmière aussi, parler de pique-niquer à côté d'Auschwitz, j'irai plus loin, on va arriver au choix de Sophie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film, le choix de Sophie, c'est-à-dire qu'on va arriver, et encore une fois, en parallèle horrible avec Auschwitz, c'est le triage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui auront priorité sur d'autres.
Et c'est déjà le cas, mon cher Thierry, c'est déjà le cas. Dans la région Est, c'est déjà le cas, et ça fait déjà quelques jours que ça se pratique dans les hôpitaux à Mulhouse, à Colmar. C'est malheureusement déjà le cas. Voilà. Et la notice, enfin la circulaire du ministère d'il y a deux jours, elle était déjà utilisée avant même d'être sortie, hein. Ouais, malheureusement.
Sur le triage, oui, c'est la pire des horreurs, c'est de la médecine de guerre, effectivement.
C'est ça.
On sauve ceux qui sont sauvables et on laisse malheureusement sur le côté.
On accompagne les autres, alors on les laisse dans la mesure du possible pas mourir, mais en tous les cas, on les accompagne, ouais, tout à fait. Mais il n'y a pas assez de respirateurs, c'est une réalité qui est déjà quotidienne pour ces hôpitaux, hein, qui sont saturés depuis un moment. Et du coup, voilà, il y a un choix qui est fait, oui, tout à fait.
Patrick Cohen, juste, moi j'interviens, on est au quotidien à la gestion, à la suite de crise, à l'acte du consistoire, et on voit effectivement cette impression que tu décris très bien, d'avoir l'impression d'avoir des gens qui pique-niquent à côté de la catastrophe. C'est vrai que quand j'ai vu ton poste la première fois, j'ai été plutôt dubitatif, parce que je trouvais qu'il risquait d'avoir un effet oxygène, et a posteriori, quand on voit le résultat l'information que ça a généré, ben vraiment un grand respect, parce que effectivement le talent de ta plume et le message fort qui est dit relaye cette information de arrêter de pique-niquer à côté de la catastrophe. Et moi, je m'en étais pas rendu, je m'étais pas rendu compte que l'effet communicant qu'il pouvait y avoir était aussi fort et vraiment d'abord un premier coup de chapeau. Et maintenant, ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Et parce que quand on a parlé après, je me suis dit, moi, je vois pas à quoi ça sert. Et bon, j'ai compris à quoi ça sert maintenant. Maintenant, il y a un travail de pédagogie qui est fait et d'information. Et
je ça, sais pas ce qu'on fait après. C'est marrant. C'est marrant que tu me poses cette question parce que je me la pose. Parce que finalement, ça crée une espèce de communauté. J'ai des centaines de gens. Enfin, je disais tout à l'heure à mon épouse que mon téléphone, il est à 45% parce que je reçois à peu près toutes les secondes des messages en fait de Facebook. Je dois avoir à peu près 2500 demandes de nouveaux amis. Quand je dis que tout ça me dépasse. J'ai pas la connaissance moi des réseaux sociaux pour savoir ce que j'en fais. Je ne suis le porte-parole de rien. Faut savoir que j'étais contacté hier par I24 News qui voulait que j'intervienne dans une émission hier soir. Dans une autre émission dimanche, j'ai refusé parce que je leur dis, je ne suis le porte-drapeau d'aucune cause. D'abord, je ne sais pas des sujets que je maîtrise. Je n'ai été que la voix d'un soignant. Mais je sais que le médecin en question, on a réussi à l'identifier. Il a été appelé hier soir par TF1 qui voulait aussi le faire passer aux 20h et il a refusé de la même façon. Je suis pas certain que je poursuivrai parce que c'était pas l'objectif. Mais je crois que les messages aujourd'hui, le message est bien passé, c'était l'objectif prioritaire. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a un effet très exaltant finalement. On se dit qu'est-ce qu'on fait toute cette matière humaine qui à un moment vous a suivi. Pour le moment, je pense que j'en ferai rien. Je suis satisfait que ça ait fonctionné. Le reste, voilà. Je ne travaille pas dans le digital, j'ai pas envie forcément de créer un groupe. Je crois que c'était bien de le faire et c'est une satisfaction.
En tout cas, bravo à Patrick pour son humilité, parce que c'est vrai que certains pourraient se sentir devenir un influenceur ou autre. Merci pour ton te mettre au service de la communauté mondiale.
Merci à vous.
Je voudrais profiter, maintenant que nous avons notre président Patrick Cohen, maintenant tout aussi célèbre, comme tu le disais Thierry, que le Patrick Cohen d'Europe 1, c'est aussi ça, le bon revers de la médaille, c'est que Radio Judaïka est fièrement représenté par notre président. Nous avons aussi la chance, Thierry, de t'avoir, d'avoir Olivier Samuel. On a évoqué, vous avez dit, cette cellule de crise dont vous êtes tous les deux responsables et dont Olivier et Samuel, que tu coordonnes. Je crois que nos coreligionnaires strasbourgeois, barinois, alsaciens peuvent apprécier la qualité de votre réactivité et surtout l'efficacité de vos actions. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le backup? Qu'est-ce qui se passe derrière cette cellule de crise? Comment est-ce qu'elle s'organise? Comment est-ce que vous vous organisez? Comment est-ce que vous faites pour être toujours à flot
ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une cellule de crise par rapport à d'autres cellules de crise qui est rodée, ce qui paraît un peu étonnant parce qu'on a eu déjà quelques crises à gérer ces derniers temps, entre autres avec les attentats. Et ce qui fait qu'on est une équipe qui a l'habitude de travailler ensemble, qui s'entend bien, qui a beaucoup de respect et de savoir-faire dans la compétence de l'autre. Et je pense que c'est ça le point crucial. Il y a beaucoup de communication entre nous, on se parle toute la journée, ça n'arrête pas. Le point crucial, c'est le deuxième point, c'est qu'on sait ce qu'on a à faire. On est là pour la continuité de la vie juive et l'entraide sociale. Les deux fondamentaux sont là. Ils sont posés, on est dessus depuis le début, et après, on priorise. Au départ, on a cherché surtout à créer un maximum de liens pour essayer de bien identifier les problèmes. Et au fur et à mesure du temps, ces derniers jours, on construit des solutions et on les étoffe, que ça soit en termes de vie communautaire avec le centre communautaire virtuel, la Common Life qu'on est en train de monter avec des activités tous les jours, avec le grand rabbin le matin, Ariel Rebibo le soir, Mendel Samam le plus tard dans la soirée, les ados vers 20h, et on est en train de faire, il y aura des nouveautés pour la semaine prochaine avec pour les petits et des différents invités du rabbinat à l'après-midi. Et de l'autre côté, la partie sociale, on fait un gros travail d'appel. Il y a une campagne d'appel de 300 personnes qui est en train d'être fait ce matin et hier pour prendre des nouvelles de tout le monde et identifier les besoins des gens, et un travail de prévention. À parallèle de ça, on a un gros travail d'anticipation. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on essaye d'identifier clairement les situations qui vont venir, dont Pessard, en clair. Et on a un message important à faire passer au sens. Préparez-vous pour Pessard, dans le sens de ce qu'a dit le grand rabbin de France. Préparez-vous pour en faire quelque chose, non pas de subi, mais de voulu, au sens, prenez le choix de faire le Pessard qu'on devra faire, mais en le faisant avec le sens qu'on veut y mettre. C'est sûr que ça ne sera pas le Pessard habituel, mais ça sera un Pessard qui peut aussi trouver sa force dans le renouveau et dans les changements des habitudes, et d'arriver à quelque chose de très fort tous ensemble.
Merci Olivier pour ces mots encourageants. Avant Pessah, il y a bien sûr Shabbat qui arrive. Ce que je vous propose, auditrices et auditeurs de Radio Judaïka, de la communique de Zoom et du Consistoire, eh bien, c'est de nous retrouver Motsé Shabbat pour faire un point, pour partager un peu ce premier Shabbat sous confinement. Et d'ici quelques secondes, nous allons bientôt
rendre. Dan, oui. Pour finir, juste, je vous donne tous rendez-vous ce soir, 17h-17h30 pour Kabbalat Shabbat sur Zoom. Les liens sont sur les différents supports.
Support, Kabbalat Shabbat pour préparer la rentrée de Shabbat et on se retrouvera bien sûr Motsé Shabbat. On va peut-être donner une heure pour nos followers. Olivier, on va se dire.
19h 20h.
Allez, 20h. On vous donne rendez-vous pour que chacun puisse partager. Venez nombreux pour que nous puissions partager et vous partager également votre premier Shabbat en confinement.
Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom. Shabbat shalom Thierry. Shabbat shalom Diane.